Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et j'accompagne les solopreneurs et les freelances à développer une activité plus en phase avec leurs aspirations profondes et avec leurs valeurs. Et les valeurs, c'est justement le sujet de l'épisode du jour. J'ai le grand plaisir d'accueillir au micro Perrine Tanguy, qui est une des alumnies du programme Surf. Je crois que c'est la première alumnie du programme Surf à passer sur le podcast. Je suis très heureux de discuter avec elle. Et le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 1 an que j'ai créé avec Marie Lanazza. On est 2 à vous guider pendant 1 an dans ce programme. Et pour dire quelques mots sur Perrine, Perrine vient à la base du monde de l'e-commerce. Et depuis que je l'ai rencontrée, elle a entrepris un travail de questionnement en profondeur sur son métier, mais aussi sur tout l'écosystème professionnel, tous les métiers du commerce en ligne en fait, avec la volonté de construire une nouvelle vision de ses métiers, de son métier, plus en phase avec ses valeurs, notamment des valeurs d'éco-responsabilité. Et ce questionnement-là, il a entraîné Perrine à revoir en profondeur toute son activité en tant que freelance. Son positionnement, son offre, sa communication, même ses objectifs et ses stratégies. Et elle porte aujourd'hui, bien plus loin que ça, une vision de ce à quoi elle veut contribuer, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle manière, d'une nouvelle vision d'un e-commerce plus responsable. Et on parle de toutes ces choses dans cet épisode. Et ce que ça souligne pour moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant, c'est de voir tout ce qui peut naître du fait de s'aligner avec ce qui est vraiment important pour nous et de construire notre activité et notre vie d'ailleurs à partir de ça. Et Perrine incarne un merveilleux exemple de ça et je suis ravi de vous le partager. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont je parle très régulièrement dans ma newsletter aussi. Et si vous voulez la lire et la rejoindre, vous pouvez vous inscrire sur thomasburbidge.com/newsletter et rejoindre les milliers d'indépendants qui me lisent chaque semaine. Mais d'ici là, je te souhaite de bien te plonger dans ce nouvel épisode et on se retrouve tous les deux à la fin. Bonne écoute. Salut Perrine, bienvenue sur le podcast.
Merci toi, salut.
Je suis super content de t'accueillir et de discuter avec toi, d'autant plus que tu es la première alumni, il me semble, du programme SURF à venir partager ton aventure et ton expérience d'indépendante sur le podcast. Et aussi, et grande chose, tu nous fais l'honneur de prendre ce temps pour discuter avec moi et les auditeurs, sachant que tu es à la veille d'une grande phase de ta vie, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, pour contexte, pour les personnes qui n'ont pas l'image comme moi j'ai l'image, Perrine est bien bien enceinte et je crois que l'accouchement arrive très bientôt.
Ah ouais, non, c'est cool. Bah ouais, ça va être une nouvelle aventure. Hein.
C'est clair, une grande et belle aventure, comme je l'espère tu vis ton aventure d'indépendante. Et d'ailleurs, ça me permet d'arriver sur notre première question rituelle que tu connais. Comment, mais surtout, pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante ?
Très grande question. Et ben du coup, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que salariée dans le monde du e-commerce, où j'avais une expertise en acquisition de trafic pour des sites e-commerce, donc pure player comme retailers qui ont brick and mortar, donc qui ont et un site e-commerce et des magasins, avec une petite expertise dans la mode, en l'occurrence dans l'habillement. Voilà, donc moi, mon métier, c'était de faire en sorte que les gens viennent sur les sites e-commerce pour lesquels je travaillais, pour que derrière, ils achètent. Voilà, en gros, grosso modo. Voilà, et puis j'ai eu une petite période un peu difficile là sur ma dernière expérience salariée. On va pas citer le mot, mais on va dire grosse fatigue, un peu un trop-plein. Du coup, ça m'a fait, tu vois, de quoi je veux parler. Du coup, ça m'a fait vachement réfléchir sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. et puis du coup, en parallèle de ça, j'avais fait un bilan de compétences et j'avais mis le doigt sur le fait que dans ma personnalité, j'avais besoin de me retrouver dans des valeurs. Et là, en l'occurrence, je trouvais plus trop de sens à mon métier. Et puis, en parallèle de ça, j'avais un ami aussi qui avait repris une marque qui appartenait à ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. C'est la marque Atelier Tuféry, qui fait des jeans made in France. Et en fait, ça faisait une dizaine d'années qu'on se connaissait dans une toute autre vie. Et puis lui m'avait dit, ben en fait, j'aurais besoin de tes services, j'ai besoin de toi pour développer aussi notre activité e-commerce. Le fait de pouvoir distribuer en ligne, parce que pour le coup ils sont à Florac dans les Cévennes, donc pour y aller faut y aller quoi. Donc le e-commerce est assez stratégique pour eux, voilà, c'est ça. Et puis du coup il m'a dit à ce moment-là où j'étais très fatiguée et je me posais ces questions, il m'a dit en fait lance-toi parce que je serais ravie d'être ton premier client. Donc c'est un peu ce qui m'a donné l'élan et je me suis dit bah ouais, en fait, pourquoi pas. Donc voilà comment je suis partie. Et puis j'avais aussi besoin de voler de mes propres ailes. C'est un peu bateau de dire ça, mais mais c'était le cas. J'avais besoin d'avoir un planning qui soit adapté, pas faire du 9h-20h. Voilà, j'avais besoin de temps pour moi et je me voyais pas revenir dans le salariat et avoir cette possibilité justement d'adapter mon planning comme je l'entendais. Pour moi, la seule vraie solution, c'était de se mettre à son compte. Donc voilà comment et pourquoi je suis devenue indépendante. Donc ça, c'était
trop bien.
Décembre 2019, voilà.
Trop cool. Merci pour le fond de l'histoire parce que, du coup, pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, comment nous on s'est rencontrés, c'est que, alors je sais plus exactement la date, tu me rappelleras parce que j'imagine que tu t'en souviens, mais au début, quand t'étais dans les premières phases avec ton premier client à te lancer à ton compte, t'as rejoint
le programme Surf en Freelance que j'organise et que je crée avec, que j'ai créé avec Marie Lanazza. Ouais. Et du coup, c'est là où je t'ai rencontré et où j'ai découvert ton travail et qui a mené entre plein d'autres réflexions qui étaient déjà là, je crois, à une petite épiphanie que tu as eue. Je sais pas si c'est le terme que tu utiliserais, mais moi, c'est de la manière dont je l'ai perçu de l'extérieur. Une réflexion sur ton métier et tes valeurs dont tu as un peu commencé à parler. Mais du coup, je suis curieux à quel moment est-ce que c'est intervenu cette réflexion que tu avais entre ben voilà, je vois que dans mon bilan de compétences, c'est hyper important pour moi de porter les valeurs que j'ai envie de porter et comment je fais pour l'incarner concrètement dans mon métier quoi et dans ma nouvelle voie indépendante.
Bah ouais, exactement. Bah en fait, pour te raconter toute l'histoire, toute la genèse. donc cette amie me disait bah voilà, lance-toi, je serais ravie d'être ton premier client, etc. Je me suis dit bah ouais, allez, c'est parti, je me lance dans mon activité. Puis sans trop me poser la question de savoir quel sens je voulais donner à mon activité. Et puis je suis allée un jour sur le salon des entrepreneurs à Paris. Et j'ai entendu parler du podcast Young, Wild and Freelance. Et ça, c'était en janvier 2020. Et donc j'avais écouté le premier épisode qui était avec Johanna et que j'avais adoré. Et qui était sur justement, il me semble, trouver son identité, trouver sa propre mission, etc. Et j'avais trouvé ça incroyablement inspirant. Et je m'étais dit, mais c'est marrant, c'est pas du tout des questions que je me suis posées moi. Et pourquoi je me la poserais pas cette question? Il faut en fait que je me la pose. Et du coup, j'avais écrit à Johanna, et trop sympa. On est allé boire un petit café ensemble, vraiment trop chouette quoi. Elle m'avait donné plein de petits tips, plein d'inspiration. Puis elle m'avait parlé forcément du programme Surf en Freelance. Et donc j'avais commencé à m'y intéresser. Et puis j'ai commencé le programme en mars 2020. Et en fait, ça a été... C'était conjoint à la période de confinement que j'ai passé en Bretagne, dans un petit cocon familial où j'avais du temps, en fait. J'avais que ça, quasiment que ça à faire. Enfin, je m'occupais aussi de mes clients, mais pour le coup, Surf en Freelance, ça prenait... Enfin, le programme prenait à peu près 50% de mon temps de mes journées.
Ah ouais.
Investi. Du coup, j'ai un peu j'étais super investie et puis comme je suis assez scolaire, tu vois, j'aimais bien le fait que voilà, aujourd'hui je vais faire ce module là et demain je ferai celui-ci et mon objectif c'est de finir la phase 1 à telle date, voilà, j'aime bien me fixer des deadlines. Et en fait, ça a beaucoup cadré ma pensée. Et tout ce travail de réflexion que j'avais un peu déjà mené en amont, le programme m'a vraiment aidé à le cadrer, cette réflexion. C'est devenu assez limpide, quoi. Voilà. Donc, assez rapidement, j'en suis venue à me dire, OK, mais en fait, je veux faire ça. Et je veux incarner ces valeurs-là. Voilà. Donc, je suis pas sûre que sans le programme, pour le coup, j'y serais arrivée seule. Parce que c'était il y a un moment donné, notamment quand j'ai commencé le programme, je me souviens, j'avais mis sur papier plein d'idées, mais c'était brouillon et c'était très confus. C'était assez confus dans ma tête. Mmh. C'était confus aussi parce que, en fait, les valeurs que je voulais incarner, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'antinomie avec mon métier. Alors, c'est-à-dire, je m'explique. Ouais. En fait, j'ai un métier où l'idée, c'est d'aller chercher la croissance, toujours. On veut toujours faire plus. Donc, on veut toujours faire plus de trafic, plus de chiffre d'affaires, voilà. Et puis moi, à ce moment-là, je me disais, ouais, mais... Enfin, toujours faire plus, pourquoi en fait? La croissance là qu'on va chercher, est-ce qu'elle est vraiment durable? Est-ce qu'elle est raisonnée? Est-ce qu'elle est raisonnable? Et je me disais, mince, il y a une vraie antinomie quoi. Il y a vraiment les valeurs où je me dis, bah, moi, la croissance sans limite, j'y crois pas, j'y crois plus. parce que parce qu'on arrive au bout de nos richesses. et puis bah d'un autre côté, mon métier qui veut que bah oui, on va chercher de la croissance. Donc voilà, donc il y avait cette antinomie là où je me disais mince, comment je vais répondre à ça. Et puis à ce moment-là aussi, je m'intéressais pas mal au sujet du numérique responsable. J'avais intégré le collectif greenIT.fr. Et je voulais, enfin je trouvais un peu hallucinant de voir les impacts que le numérique pouvait avoir, donc de voir les impacts que mon métier pouvait avoir.
Ouais.
Et du coup il y avait tout ça, tu vois. C'est, donc
ouais,
ça, tout ça c'était bloqué sur une feuille A4 blanche. Et puis c'était brouillon, quoi. Je me disais, je sais pas ce que je vais sortir de ça. Je savais que j'allais en sortir un truc, mais je savais pas quoi exactement.
Et je suis curieux, du coup, de si on regarde là un peu en post-rationalisation, à ton sens, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, t'arrives à trouver le point de jonction et de rencontre entre, voilà, j'ai des valeurs, je m'intéresse de plus en plus à l'éco-responsabilité, je vois que mon métier il nuit à ça, et en fait j'ai l'impression que ce que je fais et tout ce que j'ai appris pendant ces 10 années de salariat et l'expertise que j'ai, en fait c'est pas au service de mes valeurs. À ton sens, c'est quand la première fois, et comment c'est possible que tu te rends compte, en fait je peux créer un mélange, je peux mettre mon métier au service de ça, c'est pas obligé de nuire, enfin voilà, tout ce que tu as développé par la suite, où je trouve que ça fait complètement sens et c'est hyper cohérent et pertinent entre ton job et tes valeurs. Mais je suis curieux, la première fois où tu te dis, ah tiens, c'est possible en fait. J'aimerais bien genre qu'on zoome un peu sur ce moment-là pour voir ce qu'on y trouve.
Ouais, bah, je sais pas s'il y a eu un moment en particulier. Je pense que en fait tout le programme m'a aidé à cheminer vers ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a eu une nuit pendant le confinement. C'était au mois de mai, donc je devais être j'avais dû faire les deux tiers du programme, et il y a une nuit où j'ai rêvé que je rédigeais mon manifeste, et c'était limpide, et en fait je me suis réveillée le matin et j'ai posé sur papier tout ce qui m'était venu en rêve. et voilà, et c'était devenu limpide. Alors, je saurais pas te dire s'il y a eu un déclic, où il y a eu un moment. Il y a eu cette nuit-là, en tout cas, où c'était devenu très clair. Mais je pense que tout ce travail de cheminement m'a amené à cette nuit-là. Et il n'y a pas vraiment eu de déclic. Mais en tout cas, je me suis dit, peut-être que avant, je m'autorisais pas à questionner mon métier. Je me disais, voilà, mon métier, c'est comme ça, je vais chercher la croissance à tout prix, etc. Et puis, dans ce travail de réflexion, je me suis autorisée à me dire, bah, peut-être qu'on peut faire autrement. Et puis, je pense que, voilà, la nuit où j'ai rédigé ce manifeste, en fait, c'était OK, j'avais la confiance qu'il fallait que j'aie, pour pouvoir m'autoriser à me poser cette question, à me dire, bah, peut-être qu'en fait, là, le métier que je fais, il y a moyen de l'adapter. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il y a moyen de l'adapter et de le réinventer, en fait.
Ouais, trop intéressant. C'est marrant, tu vois, que on en parle là parce que ce matin, j'enregistrais un épisode qui est déjà sorti sur le podcast avec Jules Zimmermann, et où on parlait de... lui, son sujet, c'est la créativité inspirée par les sciences cognitives. Et il expliquait que, en gros, cet effet genre eureka, le moment où, et ce que tu expliques dans ton rêve, tout d'un coup, tout devient clair et limpide, que ce soit consciemment ou inconsciemment dans un rêve, ça vient en grande partie de tous les efforts et le travail fourni avant pour avoir, en gros, tous les éléments, quoi. Et ensuite, presque de manière, entre guillemets, passive, mais en tout cas, pas forcément consciente, toutes ces briques du puzzle, elles se réorganisent ensemble. Et ça donne naissance à ce qu'on pense être des éclairs de génie ou des choses comme ça. Mais en fait, c'en est pas. Et ça illustre super bien ce que tu dis là, que ça faisait des mois déjà, et même avant le programme, où tu posais des idées, t'écrivais, tu cherchais, tu posais, tu réfléchissais, tu réorganisais. Et à un moment donné, tout ça a fait que, en prenant un peu de recul et sur le biais d'un rêve, bah, du coup, ça apparaît clairement la nouvelle forme que tu pouvais donner. Donc ça, c'est déjà un premier truc que je voulais dire que je trouve super intéressant. Et le deuxième, c'est que je trouve ça très juste ce que tu dis sur le fait que souvent, on questionne pas nos métiers. Genre, on nous a formés, on a exécuté ce métier dans un cadre particulier, surtout quand on a été salarié avant. Et du coup, on peut très facilement dire, bah voilà, en fait, c'est comme ça que je fais mon métier, je vais faire la même chose, mais en indépendant. Alors qu'à mon sens, un métier, c'est simplement un ensemble de compétences qu'on met au service d'un but. Moi, je parle souvent de la transformation qu'on veut créer pour nos clients et dans le monde. Mais du coup, on peut changer aussi au service de quoi on met ses compétences et comment on les utilise entre elles et ainsi de suite. Et je trouve que c'est ça que tu as fait. Du coup, je reviens aux compétences, au service de quoi j'ai envie de les mettre, ces compétences.
Ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais ça, pour s'autoriser à faire ça, faut quand même. Enfin, moi, tu vois, quelques mois auparavant, j'aurais pas eu le courage de le faire, quoi. Mmh. Et j'aurais pas eu assez de confiance en moi, je pense.
Mmh. Pour te dire, je suis légitime de réinventer.
C'est que je pense que. Ouais, voilà, exactement. C'est toute une question de légitimité. Mais bon, après, cette confiance, ça va, ça vient. Hein. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus... aujourd'hui, je pense que j'ai encore pas mal de confiance à acquérir, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que cette réflexion que j'ai eue au mois de mai l'année dernière, j'aurais jamais pu l'avoir au mois de janvier. C'est certain. Mmh. Ouais. Et voilà. Et en fait, c'est je pense que le programme Surf m'a appris aussi à me faire confiance, quoi. À me dire, bah ouais, en fait, vas-y, autorise-toi à questionner ce que t'es en train de faire, en fait. mais ouais, c'est pas facile, quoi.
Clairement. Mm. Clairement. Et je pense que c'est vraiment un sujet de, effectivement, s'autoriser à voir et rêver un peu différemment, tu vois, et sortir de on m'a dit que c'était comme ça, donc on va faire comme ça.
C'est ça.
Et ce que j'aimerais bien explorer avec toi là, c'est du coup, tu dis, ok, j'ai vu différemment, ça s'est incarné dans la forme d'un manifeste qui est aujourd'hui sur ton site et que je sais depuis est devenu un bon outil de communication pour toi. Je suis curieux de la première fois où du coup tu poses ça à l'écrit, je sais pas si tu le mets direct sur ton site ou pas, mais comment ça se passe par rapport à tes clients actuels? Genre en mode, ok, j'ai cette nouvelle vision de comment je veux mener mon métier. Est-ce que je veux proposer à mes clients, comment ça se passe dans les missions qui sont déjà en cours, comment tu l'intègres, comment, enfin voilà, je suis curieux de ce qui s'est passé à ce moment-là avant de se dire on va aller conquérir des nouveaux clients sur ce sujet, genre déjà dans les trucs où tu étais impliqué, c'était quoi les implications du coup?
Ouais, bah ce qui est sûr c'est que, et d'ailleurs je le mets dans le manifeste, tout le monde n'est pas de mon avis. Et du coup, en faisant ça, je me coupe de certains clients, c'est certain. Après, si je reviens sur le module du programme « Trouver son client idéal », c'est pas un souci, en fait. Parce que moi, j'ai pas du tout envie de travailler avec des clients qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Et il se trouve que les clients pour lesquels je travaillais à ce moment-là et pour lesquels je travaille encore avaient déjà ces valeurs. Incarnait déjà ses valeurs. Donc ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que moi, ça m'a probablement confortée aussi dans l'idée de rédiger ce manifeste et dans l'idée de m'autoriser à questionner le métier. Donc c'est peut-être un des éléments qui m'ont donné confiance aussi pour m'autoriser à faire ça. Voilà. Et aujourd'hui, bah encore une fois, les clients qui sont pas dans cette mouvance, bon, bah moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Et eux, ça les intéresse pas non plus, mais c'est pas grave.
Ouais,
voilà.
C'est pas que t'es pas tes clients, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble.
Ouais. Et c'est top, tu vois, c'est trop cool de se dire, en fait, voilà, moi, la proposition et ce que j'ai envie d'apporter, il y a des gens qui vont être en mode « Ouais, trop bien, c'est aussi moi ce que j'ai envie de vivre ». Et je trouve ça super intéressant, effectivement, que tu dises que, ben voilà, en fait, je me rends compte que ça fait partie des aspirations de certaines personnes parce que mes premiers clients, ils ont les mêmes aspirations que celles que j'ai envie de partager. Et que du coup, ça valide aussi le fait que, ben voilà, il y a un potentiel, il y a une voie, il y a un truc qui s'ouvre. J'imagine que tes conversations et ton expérience dans le collectif Green IT, ça a fait partie de cette validation, entre guillemets, sectorielle et de marché aussi. Mais je me rends compte que du coup, juste avant qu'on rentre dans la suite, mais juste, j'aimerais bien qu'on reprécise ce que c'est un peu cette nouvelle vision que tu t'étais construite aussi. Parce que je me rends compte que voilà, nous, on sait de quoi on parle, mais les gens qui nous écoutent, ils se disent, attends, e-commerce, éco-responsabilité, je vois pas trop comment ça match. Peut-être que ça peut être le moment pour que tu poses un peu, c'est quoi ta nouvelle vision de la chose et comment tu veux refaire ton métier, quoi. C'est quoi ton nouveau métier, du coup?
Oui, complètement. Ouais. Ouais, donc moi je prône une croissance, mais une croissance durable et raisonnée. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas aller chercher à faire plus 100% tous les ans. Mais on va chercher à faire ce qui nous semble être bien. Voilà. et du coup, j'ai commencé à questionner tous les métiers du e-commerce. À me dire, attention, parce que greenit.fr, donc le collectif que j'avais rejoint, c'est Frédéric Bordage qui a l'initiative du collectif et qui alerte sur les impacts que le numérique peut avoir, notamment sur l'environnement. Mmh. Et il alerte sur le fait que, en gros, ce qui pollue le plus, la plus grosse source d'impact du numérique aujourd'hui, ça va être la fabrication de nos appareils. Ça représente à peu près 80% de la pollution du numérique. Et il alerte sur le fait que, en fait, pour fabriquer nos appareils, il faut des métaux rares, qui, dans métaux rares, il y a rare, qui, en fait, d'ici 30, 40 ans, au rythme où on la consomme, il n'y en a plus. Donc, si on veut préserver cette ressource, qu'est le numérique, parce que c'est une vraie ressource, pour le coup, c'est un outil qui est incroyable, du coup il faut raisonner un peu, il faut commencer à raisonner notre consommation. Voilà, donc je suis un peu partie de ça, je me suis dit attends, hein. Donc on est en train de parler de numérique, en fait le e-commerce c'est partie intégrante du numérique, on est d'accord, et je me suis dit mais en e-commerce c'est pareil, on questionne pas non plus l'impact que la livraison express peut avoir par exemple sur l'environnement. On questionne pas l'impact que un algorithme d'intelligence artificielle peut avoir sur nos comportements. Tu vois, sans citer de nom, un grand site e-commerce sur lequel tu vas te loguer donc et qui connaît du coup ton parcours utilisateur, un peu tes anciens achats, etc., va te proposer uniquement ce qui te plaît. Et donc, en fait, t'enferme plus ou moins dans ce qu'il pense qui va te plaire. Et du coup, tu t'ouvres pas du tout sur autre chose. Donc, bref, il y a des impacts environnementaux du e-commerce, mais il y a des impacts aussi sur notre société, en fait. Et je me suis dit, comment est-ce que moi je peux proposer d'offrir mes services, donc continuer à proposer du conseil pour des clients qui veulent croître raisonnablement et durablement avec cette mouvance-là, en disant on va essayer de minimiser l'impact de la logistique, l'impact des livraisons. On peut aussi essayer de minimiser tout ce qui est biais cognitif, on parle d'économie de l'attention, etc. Et voilà. Et donc, j'en suis venue à me dire, moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est j'ai envie de proposer des services, du conseil, pour un e-commerce qui soit plus responsable. En questionnant tout ça. Voilà.
Trop bien.
Et donc, il faut quand même réinventer un peu ces métiers du e-commerce, parce que le e-commerce, ça regroupe quand même énormément de métiers. Et donc, pour ça, j'ai créé un collectif qui s'appelle le collectif ECO, E-C-O, pour e-commerce responsable. Et ensemble, on essaie justement de questionner tous les métiers, à se dire, un e-commerçant qui veut partir sur une solution e-commerce, un outil type PrestaShop, WooCommerce, ou justement qui se pose la question, bah peut-être que ce serait cool de lui donner des clés sur quelle est la meilleure plateforme pour lui,
ouais,
pour minimiser les impacts. Un e-commerçant qui se pose la question de savoir si il veut passer par Mondial Relais ou par La Poste pour ses livraisons, ou par de la livraison express avec Chronopost, bah, et s'il est dans cette mouvance de se dire je veux faire du e-commerce mais responsable, quel outil de livraison est-ce que je choisis?
Voilà. Ouais.
Donc voilà maintenant à quoi j'aspire. J'aspire à donner du conseil en e-commerce pour continuer à faire croître des business qui sont qui sont bons pour la société. Et tout en mettant au service de ses clients, le fait que il faut que ça respecte quand même un minimum d'éthique et de responsabilité sociale et environnementale. Je sais pas si j'ai été
trop bien clair. ouais si, c'est hyper clair, et je pense que ça peint bien l'image pour les gens qui nous écoutent. Et c'est intéressant parce que une des choses sur lesquelles je voulais t'entendre aussi, c'est le fait que donc t'écris ce manifeste, tu construis un peu cette nouvelle vision de ce à quoi tu veux contribuer, mais comme tu le dis là, avec la naissance de ton collectif que t'as créé, ça ouvre les portes à plein d'autres choses en fait. Et moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que t'as fait depuis, du coup, en un peu plus d'un an finalement, c'est t'as commencé à poser les briques de tout un écosystème autour de cette nouvelle vision, qui viennent défendre cette idée, qui viennent faire de la pédagogie sur cette idée, qui viennent faire en sorte que les gens qui veulent y adhérer, ils ont les pistes pour le faire et ils ont les outils. Et tu donnes des super exemples là de « Ok, voilà, moi je suis un potentiel client ou une personne dans la même mouvance avec les valeurs similaires aux tiennes, qui veut tout de même faire un e-commerce et développer une activité autour parce que c'est la voie que je choisis. Ben, je peux le faire parce que et je sais qu'avec le collectif, vous voulez produire plein de documentation sur ces sujets au-delà de la partie conseil. Et du coup, je trouve ça super intéressant, cette réflexion un peu écosystème qu'il y a autour. Et je serais curieux de t'entendre sur pourquoi tu as voulu aller à ce cran-là, tu vois. Tu aurais très bien pu dire, voilà mon manifeste, je fais mes clients, j'ai mes gens en consulting, en individuel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un cran plus loin et de se dire, il y a peut-être le potentiel d'impulser un vrai mouvement dans cette direction pour le secteur?
Alors, il y a deux raisons, je pense. La première, c'est que j'avais pas envie de travailler seule. Et puis, en plus, je me disais que j'avais pas les épaules pour non plus. Parce que, encore une fois, les métiers du e-commerce, c'est... On parle de métiers au pluriel, tu vois.
Ouais.
Et moi, j'ai une expertise en marketing digital, en acquisition de trafic. Mais tout ce qui va être technique, tout ce qui va être logistique, etc. Bon. Certes, j'ai travaillé 10 ans dans le e-commerce, donc je sais à peu près de quoi on parle, mais c'est pas mon expertise et je me sens pas légitime d'ailleurs de m'exprimer sur ces sujets. Or, ce que je voulais, c'est questionner le e-commerce dans sa globalité et pas que le côté marketing digital, acquisition de trafic. Donc, il y a une question de je veux pas travailler seul et de toute façon, je ne peux pas travailler seul parce que je n'ai pas assez de connaissances et compétences dans ces domaines-là. Et la deuxième raison, et là je vais invoquer le pregnancy brain parce que ça y est, j'ai déjà perdu. non, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là. Il y a cette idée de ne pas vouloir travailler seul. Ah si, puis il y a cette idée aussi, tu parlais d'impulser, de vouloir impulser un mouvement. En fait, aujourd'hui, quand tu regardes la presse spécialisée e-commerce, il y a rien, ou alors ça commence à parler un peu du sujet. J'ai participé à des gros événements qui rassemblent plein de e-commerçants, et les plus gros e-commerçants d'ailleurs. Et en fait, le sujet principal, c'est business, le chiffre. Voilà. Et jamais j'ai entendu parler de croissance raisonnée, de croissance durable. J'ai entendu parler d'impact du e-commerce sur l'environnement. Et du coup, je et donc ça dans les événements, mais aussi dans la presse spécialisée. Alors je te le disais, hein, ça commence à bouger un peu, notamment sur les côtés logistiques. Où voilà, il y a pas mal de e-commerçants qui commencent à faire des efforts sur les livraisons, les packaging, etc. Il commence à y avoir aussi des outils qui existent, qui proposent par exemple des packaging solides et réutilisables. Donc c'est intéressant. Sur le côté marketing digital, il y a rien aujourd'hui. Si ce n'est qu'on commence un peu à questionner, par exemple, l'utilisation des données. Bah là, enfin, on a été obligé de le questionner avec le RGPD, là, le règlement général sur la protection des données. Et donc, on commence aussi un peu à questionner l'hégémonie de Google sur un outil comme Google Analytics. Et on voit des solutions alternatives émerger comme Matomo, par exemple. Mais ça reste assez anecdotique et il y a pas de vrai mouvement, ça n'existe pas en fait sur le questionnement de tous les métiers du e-commerce dans sa globalité. Et je me suis dit qu'il y avait, comme tu disais, un travail de pédagogie aussi derrière. Je me suis dit, bah si aujourd'hui c'est pas un sujet ni dans la presse spécialisée ni dans les grands événements qui réunissent tous les grands décideurs du e-commerce, bah faut peut-être le créer, ce mouvement. Et peu importe qu'il soit repris après par des gros acteurs type la FEVAD, etc. Peu importe, au moins, on aura un peu alerté, quoi. Ouais. Et à plusieurs, on est toujours plus fort. On va plus loin, en tout cas.
Et du coup, ouais, grave. Ouais, c'est trop intéressant. Et je suis curieux, du coup, derrière ces raisons, dans la pratique, qu'est-ce que tu te dis, ok, il y a de l'information qui manque, il y a des personnes qui cherchent potentiellement ça, qui du coup le trouvent pas et qui se reconnaîtraient dans ce que toi et le collectif vous pouvez partager. C'est quoi votre réflexion du coup sur comment on fait pour faire porter ce message? Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel ordre? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Je sais que tu as créé ton podcast Déclic Responsable, et d'ailleurs j'adore le jeu de mots, pour ceux qui ne l'avaient pas capté, c'est Déclic Responsable et aussi Déclic Responsable, que je trouve vraiment top. Mais du coup, je sais que ça fait partie de la stratégie. Mais c'est quoi l'approche de se dire, OK, on a un message à faire passer. Aujourd'hui, dans le spectre de contenu et de prise de parole, il n'est pas vraiment présent. Comment tu te dis, je vais essayer de percer là-dedans? Et qu'est-ce que vous faites du coup depuis cette année, depuis que tu as décidé de prendre cette voie pour commencer à faire ça?
Ouais, alors le collectif, en fait, il a vraiment pour but de porter cette parole du questionnement du e-commerce, plutôt auprès des professionnels. L'idée, c'est d'alerter justement les grands décideurs du e-commerce sur les impacts et de proposer des solutions, de proposer des best practices. Donc, on a commencé, on était une dizaine de membres. Là, aujourd'hui, on est à peu près 25 membres, dont 10 membres assez actifs. On se réunit un mardi sur deux pendant une heure et demie et il y a toujours un agenda assez précis. Et l'idée, c'est de pouvoir... Alors, on est en train de faire des travaux de recherche. Et l'idée, c'est de pouvoir sortir un livre blanc des bonnes pratiques. Qui vont concerner tous les métiers du e-commerce. Donc parce que voilà, non seulement, enfin, on veut alerter bien sûr, mais on veut aussi proposer des solutions. C'est toujours plus constructif. Ouais.
complètement.
Donc la première grosse mission, ça va être ça. Ça va être de sortir ce livre blanc qui regroupe les bonnes pratiques. Et ce livre blanc là, il est à destination des e-commerçants. Voilà. Et une fois qu'on aura sorti ça, on voudrait sortir aussi un site e-commerce factice, mais qui illustrerait toutes ces bonnes pratiques. Voilà, pour dire, mais en fait, c'est possible. Parce que il peut très bien y avoir beaucoup de réticences sur, vous me dites de faire un site sur mesure, mais ça coûte tant, et puis il y a telle et telle contrainte, etc. Si tu mets un peu du tien, si, c'est possible. Voilà. Donc, l'idée, c'est de prouver ça. Donc, le collectif, il a vraiment pour vocation à alerter le monde du e-commerce et les professionnels sur ces aspects-là, sur les impacts, et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces impacts. Après, okay. Mon podcast, c'est un peu différent. J'avais à cœur de... Enfin, c'est même complètement différent. J'avais vraiment à cœur d'alerter plutôt le grand public sur les impacts du numérique, et pas que du e-commerce, pour le coup. Parce que je trouvais que c'était un sujet qui n'était pas ou très peu abordé dans les médias. Enfin, on en entend de plus en plus parler. Mais je trouvais intéressant de réunir du contenu qui aborde tous les impacts que le numérique peut avoir sur nos vies, pas que sur l'environnement, mais sur nos sociétés, sur le côté éducation. Là, par exemple, tu vois, hier, j'ai enregistré un épisode avec Justine Atlan, la directrice de l'association e-enfance, qui milite pour la protection de l'enfant sur Internet, et qui gère le numéro vert qui a été mis en place par le gouvernement pour aider les jeunes, tu vois, en cas de cyberharcèlement, etc. Voilà, en fait, le numérique, il a énormément d'impact sur nos vies, et c'est assez nouveau, finalement, le numérique, en fait, hein, parce que on est connecté depuis quoi ? Depuis 15 ans ?
Ouais, depuis que mon enfance, en fait, à moi, hein, finalement.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et mon adolescence, à moi, je suis un peu plus vieille. Ouais. mais du coup, on se rend compte, tu vois, on se rend compte qu'il y a des impacts. Et je trouvais intéressant de pouvoir parler de ces impacts et surtout de parler des initiatives pour contrer les impacts. Voilà. Par exemple, l'idée des épisodes du podcast, c'est pas de faire un focus sur l'impact en lui-même, mais de faire un focus sur quelle initiative répond à cet impact. Là, en l'occurrence, si je reprends mon exemple de l'association e-enfance, le numérique peut avoir des conséquences sur l'éducation de nos enfants. Eh bien, aujourd'hui, il y a une association qui existe, qui est géniale, qui s'appelle e-enfance, et qui propose un numéro vert à destination des enfants, des ados qui ont des difficultés, par exemple, sur le web, victimes de cyberharcèlement, etc. Voilà. Donc, l'idée du podcast, c'est vraiment plus pour alerter le grand public sur tous ces impacts-là et les initiatives positives qui existent pour contrer ces impacts. Voilà. Donc, c'est un peu différent, mais du coup, j'estime que le podcast, il est... c'est vraiment une activité que je mène en parallèle de mon activité de conseil en e-commerce, mais ça vient compléter les valeurs que je voulais incarner. Voilà.
Ouais. Et le sens que j'allais dire
à mes activités.
Carrément. Carrément. Et j'allais dire, c'est hyper pertinent tout de même professionnellement parlant, entre guillemets, parce que finalement, t'as cette impulsion de pédagogie qui vient toucher à la fois l'offre, c'est-à-dire les professionnels qui créent des sites e-commerce, qui ont des business, qui distribuent sur Internet et qui ont un énorme rôle à jouer, une énorme responsabilité, mais aussi, on pourrait dire entre guillemets la demande, qui peut parfois aussi être l'offre, parce que ça se trouve, les personnes qui écoutent ton podcast, en fait, elles ont aussi leur business et ça fait qu'elles se posent des questions sur leur activité pro, mais aussi du coup sur la partie demande. Et moi, je pense que tu vois, c'est deux ingrédients hyper importants pour créer le changement dans un milieu, se faire dire que, ben voilà, faut qu'on parle à tous les acteurs de l'écosystème, et c'est seulement quand tous les acteurs de l'écosystème transforment leurs pratiques qu'on peut transformer une approche et une manière de faire et changer le statu quo et créer autre chose, quoi. Donc même sur ça, je trouve ça hyper pertinent de se dire, alors, voilà, la pédagogie, elle se prend au sens large et il faut aller toucher tout le monde. Toujours étant que... Et c'est là où, du coup, je suis curieux de ta réponse, parce que c'est une approche hyper long-termiste. Et j'imagine que là, autant toi que le collectif, vous mettez énormément de travail sur la table et énormément de ressources sur la table en amont, dans l'espoir d'eux. Et je suis curieux de comment tu te sens par rapport à ça, sur le fait que, voilà, t'investis beaucoup sur le long terme, et en même temps, bah, t'as un business, toi aussi, à faire tourner, même si croissance raisonnable et raisonnée, faut quand même faire tourner ton propre business. Je suis curieux de... Voilà comment tu te sens dans ces deux vitesses-là, quoi. Le court terme de ton activité et le long terme de ce changement que tu veux créer.
Ouais. Bah ouais, c'est sûr que c'est assez long-termiste, ouais. Mais il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que finalement, à toucher le grand public via le podcast Déclic Responsable, bien souvent, les changements, ils viennent des clients eux-mêmes, du client final. Je m'explique, en e-commerce, un client final, il va commencer lui aussi à questionner ses achats sur le grand site dont on parlait tout à l'heure et qui utilise des algorithmes qui commencent par un A et qui se terminent par un N. Et en fait, souvent, l'impulsion, elle vient pas forcément du milieu en lui-même, mais de la demande du client final. Donc, c'est aussi en ça que finalement, tu as raison, mon podcast et mon activité de conseil sont intimement imbriqués parce que le grand public a son rôle à jouer aussi sur le fait d'alerter et le fait de dire non, non, mais les gars, en fait, enfin, moi, ça me va plus ce e-commerce là, quoi. Tu vois? Voilà. Donc, ben, c'était juste, ça n'a pas du tout répondu à ta question, mais je voulais juste le préciser. Et sur comment est-ce que je vois les choses, parce que c'est vrai que c'est une stratégie long-termiste. Et ben en fait, pour reprendre un peu ce à quoi je crois en la croissance durable. Je l'ai déjà dit, je le redis. Mais du coup, ben ouais, quand on parle de durabilité, ben forcément, on voit pas à court terme, quoi. Donc, alors, je me sens confiante parce que je sais qu'à un moment donné, toutes les petites graines que je sème, elles vont finir par faire des fruits. C'est certain. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu un pari sur l'avenir, quoi, pour le coup. Et j'espère que j'aurai des fruits. J'espère que la récolte sera bonne. Donc, oui,
Bah,
il y a des jours
ouais.
où je me dis, oh, mais pourquoi je fais ça? Enfin, voilà, je me pose vraiment la question de dire, est-ce que c'est vraiment la bonne strat? Et puis, il y a des jours où je me dis, mais non, 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 si, si, crois en ce que tu fais. Et puis, oui, ça va finir par pousser. Mais enfin, en tout cas, c'est raccord avec cet aspect de durabilité auquel je crois, quoi.
Ouais, mais effectivement, j'ai pas tant. Moi, je suis assez confiant sur le fait que sur des sujets aussi importants, qui ont autant de traction et de portée, il y a clairement un moment où l'effet cumulé de tout l'intérêt que tu y portes et de tout ce que tu investis dedans, clairement, ça va porter ses fruits. Et ça m'étonnerait pas si on prend une machine à avancer dans le temps et qu'on se projette dans 1 an, 2 ans, bah tu sois peut-être dans ces événements en train de t'exprimer sur. Voilà, une nouvelle vision de ce qui est possible et comment on fait pour changer tout le circuit logistique et changer tout. Enfin voilà, que tu sois porte-parole là-dessus. Mais effectivement, avant d'arriver dans cette posture, il y a plein de choses à créer pour ça, quoi. Et je me demande si, tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute,
C'est ça.
qui se dit, ben, moi aussi, j'ai envie d'impulser un changement que je trouve ultra important dans tel ou tel secteur. Mais un truc que je vois souvent, c'est que on a vraiment envie de ça, mais on n'est pas encore nous-mêmes dans un endroit de notre vie et de notre business qui nous donne suffisamment de ressources pour donner et investir le meilleur de nous. Et ma petite intuition, c'est que toi, tu es dans cet espace aussi parce que il me semble que tu as une récurrence avec tes clients, que tes clients, c'est des clients récurrents que tu accompagnes sur le long terme et que donc ça te donne une forme de stabilité sur laquelle construire. Je veux bien t'entendre là-dessus. Est-ce que ça, à son sens, ça t'aide à te projeter plus en long terme? VS, si t'étais dans les dents de scie des revenus en mode, ah, il faut que je trouve des clients, t'es peut-être pas dans le meilleur espace pour créer, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, non, c'est sûr que j'ai tendance à l'oublier, mais j'ai la chance d'avoir des clients fidèles et des clients avec lesquels je travaille depuis les débuts. Donc c'est chouette. Et effectivement, si au début il y a une partie un peu one shot parce que je propose d'auditer l'activité e-commerce et je propose une stratégie de croissance durable sur 3 à 5 ans avec toute une roadmap, une liste d'actions à mettre en place pour arriver à des objectifs qu'on s'est fixés. Donc il y a cette partie un peu one shot. Après, pour la mise en place justement de toutes ces actions, bah, les clients ont besoin de moi. Donc c'est chouette parce que ça veut dire que je les accompagne effectivement sur le long terme et je les forme sur sur les différents métiers. Je les aide à mettre en place toutes ces petites actions. Je les aide à suivre leurs objectifs. Et ça c'est sûr que c'est une chance. C'est vrai que j'ai tendance un peu à l'oublier, mais c'est chouette parce que pour le coup, ça me garantit un niveau d'activité, donc un niveau de revenu qui soit confortant dans le sens où bah à côté, je peux me permettre d'investir du temps dans des activités qui aujourd'hui ne sont absolument pas rémunératrices, hein. Le podcast, le collectif éco, ce que j'ai pu faire et ce que je peux faire aujourd'hui pour greenIT.fr, c'est absolument pas rémunérateur, mais par contre ça c'est hyper gratifiant pour moi et ouais. Encore une fois dans une logique de durabilité, j'estime que à un moment donné toutes ces petites graines que je sème gratuitement entre guillemets sans être rémunéré, à un moment donné ça va payer quoi.
Complètement. Et tu vois, ce que je trouve hyper intéressant dans ta réponse, c'est qu'on sent à quel point cette notion de croissance durable, tu l'incarnes même dans ta manière de construire tes offres et la forme que tu donnes à ton business, tu vois. Je privilégie pas le one shot, ouais. Je privilégie les missions récurrentes avec des clients avec qui j'avance sur le long terme. Dans tes stratégies, tu viens de dire, je fais des strats pour mes clients vont de 3 à 5 ans. C'est ultra long terme comme vision, tu vois. C'est pas une stratégie sur, un an, comment on va structurer votre acquisition publicitaire, etc. C'est, si on s'engage sur 5 ans, voilà comment on fait pour renverser les choses et aller dans une nouvelle mouvance et toutes les étapes et ainsi de suite. Et du coup, évidemment que du coup, si, quand tu peins une image aussi long-termiste avec une vision que j'imagine super claire sur ce qui est possible pour les boîtes de tes clients, bah, évidemment, ils se disent, waouh, c'est ouf, peut-être qu'ils se sont jamais projetés aussi loin, tu vois, et que donc, bah, le niveau de confiance qu'ils ont envers toi et envers leur avenir avec toi, il augmente. Donc, ça m'étonne pas non plus que ça crée cette récurrence. Et du coup, comme tu dis, bah, c'est ultra durable, c'est ultra raisonné aussi, ce qui fait que, bah, ton niveau de revenu, il explose pas parce que, enfin, je sais pas, tu fais une formation en ligne ou je ne sais quoi, mais il augmente progressivement. Un client qui rentre, avec qui tu vas peut-être travailler pendant 3 ans et du coup, ce qui te permet aussi d'investir ton temps et tes ressources par ailleurs pour continuer de construire cet effet cumulé, quoi. Et je trouve ça, tu vois, plus minimaliste quelque part et potentiellement bien plus paisible aussi comme cheminement que ce truc qu'on pense tous devoir faire de il me faut plein de clients, tu vois, tout cet imaginaire-là de l'entrepreneuriat, quoi.
Ah ouais, alors j'avais pas du tout envie de ça. C'est marrant parce que ça me fait penser, j'avais rencontré un entrepreneur qui me disait, ah ouais, alors tu prends tant du TJM, du coup, si tu travailles tant par mois, tant de jours par mois, ça te fait tant de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et j'avais rien dit, mais je m'étais dit dans ma tête, je me dis, mais alors toi, t'as pas compris du tout, quoi. Tu vois, j'étais dit, ah, mais c'est, moi, je suis pas du tout... Enfin, j'ai pas du tout vocation à, encore une fois, à faire du chiffre, à vouloir faire croître mon activité. Alors, oui, c'est sûr qu'il faut que je mange à la fin du mois, hein, et puis que je fasse manger aussi ma famille, parce que bon, ça y est, ça arrive. mais voilà, c'est, enfin, on peut vivre avec un salaire correct, sans vouloir en faire trop, et surtout tout en gardant un niveau de vie perso. Enfin, moi, j'avais en me lançant en indépendante, et c'est une des raisons que j'ai invoqué tout à l'heure, c'est que je voulais avoir un planning adapté et je voulais avoir du temps, quoi. Donc non, c'est sûr que je vais pas travailler. J'estime que je travaille pas aujourd'hui pour mes clients un temps complet.
Ouais.
Donc c'est sûr que je pourrais faire plus, mais j'en ai pas envie.
Ouais, grave. Et je trouve que effectivement, quand t'atteins cette première phase de, tu vois, si on simplifie grave le truc, j'aime bien souvent dire que il y a deux grandes phases dans nos activités quand on est indé. Il y a la phase de 0 à 1 qui est je cible la stabilité de revenus, et ensuite il y a la phase tout le reste de 1 à infini qui vient derrière, qui est vraiment juste bon ben voilà, une fois que j'ai ma stabilité de revenus qui est différente pour tout le monde, et je vous invite d'ailleurs à bien définir à quoi ça ressemble pour vous une situation de stabilité dans vos ressources, argent, temps, espace mental, énergie, tout ça, et de définir concrètement à quoi ça ressemble. Et une fois qu'on a ça, après, bah, effectivement, il y a les voies sont infinies. Tu vois, on peut se dire, OK, j'ai envie de continuer de croître et développer une multinationale avec 50 personnes qui travaillent autour de moi. Ça peut être, OK, j'ai envie de rajouter tranquillement, brique par brique, un nouveau projet, un nouveau client, monter tranquillement mes prix et construire un truc du coup qui est plus dans ta voie à toi. Et il n'y a pas de vérité absolue de il faut faire telle chose ou telle chose. C'est une vision ultra personnelle.
Ouais, exactement.
Mais je pense que ouais, quand t'atteins ce premier stade de maintenant je suis stable, bah là ça ouvre tellement de portes sur en fait tout est à inventer quoi.
Ouais. Ouais, exactement. Oui, franchement, je suis pas en train de dire que, tu vois, le mec qui me disait, ouais, tu prends tant du TJM, donc tu fais tant de chiffre d'affaires par mois. Je le critique pas. Lui, c'est sa vision de l'entrepreneuriat et c'est sa vision du travail. Très bien. Moi, j'ai une autre vision, en tout cas.
Clairement. Et c'est trop bien que tu l'incarnes autant et que tu l'assumes autant. Parce que tu vois, je pense qu'il peut très facilement se passer, c'est se dire, l'autre est la bonne, tu vois. Et j'imagine que quand il te parlait de ça, il devait le défendre avec vigueur, en mode « tu pourrais faire ci, ça ». Et peut-être qu'il était ultra inspiré et donc que tu voyais genre toute l'énergie qu'il met dans son discours. Mais effectivement, ça veut pas dire que c'est la vérité, quoi. Et c'est important, ouais, c'est je pense, et potentiellement plus dur quand on a envie d'un truc plus « slow-prenariat », entre guillemets, si on peut mettre des mots-clés dessus. Ben, c'est parfois plus dur de l'assumer parce que c'est pas la mouvance collective la plus en place, je pense.
C'est ça, exactement. Ouais, faut être bon, faut être droit dans ses bottes, quoi.
Ouais. Du coup, je suis curieux de... Tu vois, là, on a bien exploré un peu l'écosystème que tu as commencé à construire entre ton offre de consulting, et tu nous as parlé un peu de tes offres, c'est trop cool d'ailleurs, le podcast pour toucher le grand public, le collectif pour toucher les acteurs. Enfin, voilà, commencer à répandre cette vision... de ton métier et de ce que tu veux porter qui était né dans le manifeste. Je suis curieux de si on se projette dans le futur, si t'as de la clarté sur à quoi ça ressemble, d'autres choses que tu voudrais construire pour ajouter par-dessus. Enfin voilà, à quoi ça ressemble le développement de toutes ces choses selon toi, après bébé.
Ouais, bah, j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet, pour répondre à une demande qui, à laquelle aujourd'hui je peux pas répondre. En fait, il y a pas mal de petites marques qui se lancent et qui sont dans cette mouvance éthique, responsable, etc. Et bah, comme elles se lancent, elles ont pas les moyens de se payer les services de Perrine Tanguy. Et pour autant, elles ont à cœur d'apprendre et d'insuffler ce côté responsable dans leur stratégie de distribution et du coup dans leur e-commerce, dans leur activité e-commerce. Et du coup, je suis en train de travailler sur une formation en ligne e-commerce responsable à destination de ces petits e-commerçants là. Donc ça c'est plutôt
trop bien.
C'est pas futur très lointain, hein, c'est normalement futur moyen terme, disons 2022 quoi. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien mettre ça en place pour 2022. C'est un peu mon petit challenge. Bon, là, j'avoue que c'est en stand-by, hein.
Mais, forcément. Mais
pour 2022, j'espère que ce sera en place. et puis, peut-être qu'avec le collectif, on est en train de former un bon groupe, là. Bah, peut-être qu'à terme, une fois qu'on aura sorti ce livre blanc, qu'on aura fait parler de nous, qu'on aura fait parler du sujet, eh ben, on pourra proposer également des services. On est, je te disais, on est une dizaine de membres actifs, tous dans des métiers différents. Il y a des graphistes, il y a des gens comme moi qui sont plutôt experts en marketing digital, des personnes qui sont un peu plus portées sur la logistique, d'autres sur le côté développement, etc. Bah, peut-être que si demain, il y a un e-commerçant qui veut faire appel à nos services, bah, on pourra lui proposer une offre complète, globale. Voilà, je dis peut-être parce que c'est encore une fois, ce sera à discuter avec le collectif. C'est parce que je l'ai créé, ce collectif, que c'est moi qui le gère.
Bien sûr.
On le gère à plusieurs, on le gère à tous, en fait. mais voilà, ça peut être ça. Tout à l'heure, tu disais aussi, peut-être que voilà, tu pourras intervenir pour alerter sur ce genre de sujet dans les grands événements. Moi, ouais, franchement, j'aimerais bien. Donc ça peut aussi faire partie du futur. Et puis voilà, enfin, j'ai tendance à faire confiance à la vie pour le coup. Et il y a des choses qui arrivent comme ça, comme bah, tu vois, la rencontre avec Johanna, puis le programme surf, et puis si, et puis ça. Enfin, tout s'enchaîne finalement plutôt assez bien.
Assez fluidement, ouais.
Enfin, plutôt bien, ouais. Et ouais, voilà. Donc il y a des projets, mais j'ai. Et ça, c'est un peu un de mes points faibles. J'ai un peu de mal quand même à voir très long terme, tu vois. Si tu me poses la question dans 10 ans, tu vas faire quoi? Je saurais pas te dire d'ailleurs, parce que aussi, je pense que les valeurs que j'incarne aujourd'hui, bah, potentiellement, elles seront différentes demain. Ouais. Voilà, il y a un grand changement qui va se passer dans ma vie. Je vais devenir maman. Mmh. Et je sais pas, peut-être que demain, j'aurai envie de plus m'impliquer dans l'éducation. Donc, je pense que la vie est découpée en phases. Et bah faut être en phase avec ces périodes là.
Grave.
Et voilà, donc peut-être que dans 10 ans je ferai un métier complètement différent, on en reparlera à l'occasion. et c'est pas grave, ce sera comme ça.
Enfin, ouais, voilà, ouais,
ça
de
sera
ouf.
La vie, quoi.
Et clairement, je pense que ouais, on est on parlait dans un épisode que j'avais enregistré avec Laetitia Vito de la vie multiphase, où c'est plus juste on apprend, on implémente et on prend sa retraite. C'est voilà, ça change tout le temps. Et tu vois, je trouve que l'exemple de ce que t'incarnes dans ton business aujourd'hui, toi, c'est que t'as un socle qui sont tes valeurs, tes compétences que tu décides de mettre au service de quelque chose. Et à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent en être et qui ont tout un lien super logique. Et je trouvais que dans voilà les projections que tu racontes, c'est hyper clair que tu peux accompagner des personnes qui sont au tout début de la première idée de « Ah tiens, j'ai envie d'aller dans ce sens », peut-être juste par l'écoute d'un podcast ou ensuite ta formation dans le futur ou le livre blanc et qui commence à se poser des questions, jusqu'à potentiellement effectivement une offre groupée avec le collectif de « Voilà, t'as un e-commerce et tu viens de le reprendre et t'as envie de le faire changer dans la manière d'opérer les choses. » Ben nous, on arrive, voilà, on est 10 et on t'exécute ce fameux plan sur 3 à 5 ans et on prend chacun une partie et on transforme ça ensemble. Et du coup, t'as une amplitude de transformation possible qui est dingue. Et je trouve que du coup, ouais, tu l'as super bien fait. Et en même temps, du coup, si effectivement demain ton socle valeur, compétences et ce au service de quoi j'ai envie de le mettre évolue, je pense que tu auras la même dynamique de te dire en fait, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'impulser, c'est quoi la transformation que j'ai envie d'apporter dans tel ou tel milieu. Et ben voilà, tu recréeras d'autres briques en plus parce que tu auras l'expérience acquise sur cette manière-là de le faire.
C'est ça. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Non, mais en tout cas, ouais, ce côté multiphase de vie, c'est hyper intéressant. Ouais. J'en étais pas là. Enfin, tu vois, si on s'était parlé il y a 3 ans, j'en étais pas là du tout, quoi.
Bah, je pense que l'indépendance accélère le fait de.
Donc, on évolue avec la vie.
Ouais. L'indépendance, je pense, accélère le fait de se questionner sur ça et de se dire. En fait, ouais, ça change tout le temps, quoi. Parce qu'on est peut-être. Je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être. On est peut-être plus au contact des faits qui changent parce que notre écosystème évolue, notre réalité évolue. Voilà, il y a une mouvance constante qu'il n'y a peut-être pas quand on est dans un format plus salarié de on se lève, on va au travail, on exécute nos tâches et ensuite on sort du milieu, quoi. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà, petite intuition qui me traverse.
Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. C'est assez confortable finalement quand t'es salarié, voilà, tu te poses pas trop de questions, tu te lèves le matin, tu vas au bureau, tu rentres le soir et puis ta journée est finie, quoi. Alors que c'est vrai que quand t'es indépendant bah du coup ton bureau souvent c'est chez toi d'ailleurs. et puis bah forcément le soir ou pendant les vacances ou pendant ton congé mat, il y a des idées qui te traversent l'esprit. Ton boulot, il est jamais très loin, quoi.
Ouais, c'est clair. Merci pour tout ça. Je te propose qu'on arrive sur les questions rituelles de fin d'épisode. Avec la première qui est, si t'étais face à Perrine, du coup, décembre 2019, qui se lance avec son tout premier client, qui d'ailleurs, s'il nous écoute, saluons-le. Ouais. Mais si t'es fait face à Perrine de cette époque, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnerais?
Bah, je pense que ce qui me manquait peut-être à l'époque, c'est c'était de me faire plus confiance. Et j'avais retenu un petit conseil de Marie dans, dans le programme Surf, qui est 3, 2, 1, go, on passe à l'action. Et ça, ça m'a un peu marqué. Parce que tu vois, j'ai tendance quand même à me poser 1000 questions. Si je fais ça, ça va pas le faire. Voilà, puis j'ai ce côté un peu perfectionniste aussi qui peut m'empêcher d'avancer. Et puis en fait, ouais, donc si j'étais face à la Périne de décembre 2019, je me dirais, fais-toi confiance et vas-y, fonce. Parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans cette... Enfin, j'étais pas trop dans ce truc-là et je le suis davantage aujourd'hui, même si j'essaie de me le rappeler de temps en temps quand même, parce que parfois tu t'oublies. Mais ouais, de plus me faire confiance, c'est sûr.
Ouais. Donc le fait d'oser passer à l'action, même sans avoir toute la certitude de ça va marcher ou etc., c'est genre en mode, comme tu dis, ok, il y a un truc, 3, 2, 1, action, c'est parti, même si je sais pas si ça va marcher à 100%, vaut mieux que je me mette en mouvement.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Ok, cool.
Exactement ça.
La prochaine question, c'est quoi la plus grosse difficulté que t'es rencontrée depuis que tu t'es lancée et comment tu l'as dépassée?
Pardon. Bah du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'était l'idée de faire coïncider mes valeurs avec mon métier. Et je te disais, voilà, j'étais un peu face à ce qui me semblait être une antinomie. Je pense que pour le coup, ouais, c'est la plus grosse difficulté. Ça a été de dépasser ça et de m'autoriser, encore une fois, je vais un peu me répéter, mais de m'autoriser à questionner mon métier et à faire coïncider mon métier avec les valeurs que je souhaite incarner. Voilà. Et il m'a fallu plusieurs mois quand même pour y arriver. Mais j'y suis arrivée avec justement tout ce travail de réflexion, ce cheminement et ce confinement. En fait. Merci le Covid.
Ben ouais, mine de rien, je pense t'es pas la seule à avoir vécu cette espèce de bulle temporelle où tout d'un coup, il y a l'espace pour mettre en perspective les choses. Et je pense que c'est un truc que, tu vois, même sans Covid, en tant qu'indépendant et indépendante, on peut très bien se l'imposer, cette espèce de course constante vers l'avant. Moi, il y a souvent une image qui me vient de je suis tellement dans le flux que je suis en train de tomber en avant et je suis en train d'essayer de rattraper les balles tout le temps en mode « Ah, je suis penché vers l'avant, il faut que je rattrape ça. » Alors que ce temps de prise de recul... Et quand t'observes, et encore une fois, on en parlait grave dans l'épisode avec Jules Zimmermann, et pour ceux qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez l'écouter, parce que ça parle clairement de ça, ces temps de recul qu'on a, qui ensuite font que voilà, nos idées, elles évoluent, et ça réorganise un peu ce qui se passe dans notre tête pour atterrir à potentiellement une nouvelle vision de notre réalité, ou pour toi, une nouvelle vision de ce qu'on a envie d'incarner avec son métier. Je pense que c'est hyper important d'avoir ces temps de respiration, donc clairement, confinement, je pense, pour beaucoup de gens, moi y compris, et donc toi aussi, du coup, de ce que je comprends, ça a eu ce rôle-là de nous offrir une bulle temporelle qu'on prend très rarement, en fait.
Ouais, complètement, ouais. En fait, je pense que c'est hyper important de pouvoir faire le vide. Pour pouvoir remplir de nouveau une page. Parce que c'est vrai que ce temps-là à faire le vide, bah, si en plus t'es salarié, et que t'as 5 semaines de congé par an, bah t'as pas le temps de faire le vide, en fait. Clairement. Donc, ouais, merci le confinement, ouais. Merci pour cette bulle temporelle, comme tu dis. Clairement.
Ouais, grave, ouais. Grave. Ma prochaine question, qui est une question spéciale saison 5. Et bon, je sais que ta réponse est teintée par le fait que bébé arrive dans 15 jours, mais la question c'est quoi ton objectif professionnel du moment?
Oh là là, ouais, c'est clair que c'est carrément tenté, hein, parce que je vais dire à mon objectif professionnel en ce moment. Ouais, non, bon, juste pour remettre dans le contexte, je suis en congé mat depuis presque un mois là, et il est difficile pour moi de penser à autre chose qu'à l'enfant qui arrive. donc bon. Je vais essayer de faire un saut en avant et te donner mon objectif professionnel quand je vais reprendre le travail début octobre.
Très bien.
Bah là, mon objectif professionnel, ça va être de sortir justement ce projet de formation en ligne, formation e-commerce responsable. Et voilà, ce sera mon objectif pour une sortie début 2022, on va dire.
Ok, cool. Et la question qui se cache derrière, qui est ce qui m'intéresse finalement le plus, c'est qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif ? Parce que souvent, nos objectifs, on se les fixe, mais on cherche quelque chose de plus profond derrière, souvent un truc émotionnel ou une raison profonde pour laquelle c'est important pour nous de faire ou de développer telle ou telle chose. Et je suis curieux de, si je te pose la question, de où il vient cet objectif et pourquoi c'est important pour toi ? Qu'est-ce qui émerge ?
Alors, à chaud comme ça, je te dirais l'envie de pédagogie. J'ai une maman prof, j'ai une sœur prof, et j'ai grandi dans ce milieu où on transmet des connaissances, on transmet des compétences. Et moi-même, hein, quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'être prof. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit, en me lançant à mon compte, que j'aimerais bien, tu vois, intervenir dans des écoles, donner des cours, etc. Et puis, en fait, l'occasion ne s'est jamais vraiment présentée. Et en fait, avec ce projet de formation, du coup, ça répond aussi à cette envie de transmettre et à cette envie de pédagogie. Voilà. Donc, c'est plus, je dirais plus ça pour le coup. Ouais. Et puis, je sais pas, peut-être que ça va vraiment me plaire et que, à terme, je concentrerai mon activité uniquement sur ce point précis. Peut-être, je sais rien. Mais en tout cas, je vais tester. Je vais voir.
Cool. Trop bien. Et effectivement, ouais, je sens, tu disais tout à l'heure, peut-être que mon activité évoluera vers l'éducation un jour, mais je sens, ouais, il y a une petite appétence, pédagogie derrière tout ça, qui parle aussi du fait que tu as envie de diffuser du savoir et de la connaissance et des prises de conscience sur ton sujet, quoi. Ça te parle, donc j'imagine que ça fait sens, quoi.
Ouais, exactement.
Trop bien. Et,
ouais, c'est exactement ça.
Pour la dernière question, du coup, de cette super discussion, et merci encore pour tout ce que tu as partagé, on va se tourner vers les gens qui nous écoutent, même si c'est seulement virtuellement parce qu'on reste face à notre micro. Mais la question, c'est si t'as une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à leur vie et leur business d'indépendant et d'indépendante, ce serait quoi la question que tu leur poses ?
Eh ben, ce serait la question que je me suis posée, moi, il y a... Ça va faire 2 ans. Savoir quel est le sens... Quel sens est-ce que vous avez envie de donner à votre vie ? Bon, alors, il y a des gens pour qui... ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin de donner un sens à leur vie. Et leur vie leur va très bien comme ça. Mais pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui ont besoin de trouver du sens à leur activité, qui ont besoin de donner du sens à leur vie, bah c'est quoi ce sens-là ? Et comment est-ce que vous pouvez faire coïncider le sens que vous voulez donner à votre vie, à votre métier ? Parce que j'estime que le travail aujourd'hui, c'est quand même, ça représente une grosse partie de notre temps. Donc comment est-ce que je peux faire coïncider le temps que je passe à travailler, donc mon travail, mon métier, avec le sens que je veux donner à ma vie. Donc là, on va dire, ouais, mais c'est tu fais peut-être un mélange vie perso, vie pro, mais moi je pense que il y a pas deux vies distinctes, en fait, il y a pas deux vies, une vie perso, une vie pro, il y a une vie seulement. Et du coup, c'est quoi le sens que je veux lui donner et comment est-ce que je peux insuffler ce sens-là à mon métier.
Grave. Voilà. Ça me parle de ouf comme...
Vous avez 2 heures.
Ouais. Je crois que tu sais à quel point ça me parle. Cette image de se dire, en fait, toutes les facettes de notre vie nourrissent toutes les autres facettes de notre vie et on pense les choses de manière holistique et pas silotée. Et clairement, ça m'inspire de dingue. Ouais. Et c'est un message et un questionnement que j'ai vraiment envie de véhiculer et qui, à mon sens... fait très beaucoup sens. Ça fait beaucoup de fois sens, mais tu vois ce que je veux dire, pour les indés, quand t'es à ton compte, à mon sens, ce questionnement là il est central, en fait, dans tout ce qu'on fait, donc Donc, ravi que tu poses de nouveau cette question et j'espère que les personnes qui nous écoutent prendront un vrai temps pour y réfléchir, autant de manière active en écrivant plein de trucs sur leur feuille comme tu l'as fait, mais aussi en mode peut-être que pendant un rêve, la vision de ce à quoi ça ressemblera pour vous vous apparaîtra.
Bah ouais, je leur souhaite. Hein.
Merci beaucoup Perrine, c'était top.
Merci.
Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter avec toi, en savoir plus, venir échanger?
Eh ben, tu peux les envoyer sur mon profil LinkedIn, Perrine Tanguy. Et puis sinon, j'ai un site perrine-tanguy.com.
Yes, où vous pourrez lire le magnifique manifeste et découvrir le podcast et le collectif aussi.
Ouais, exactement.
Trop chouette.
Trop bien.
Ben, merci Perrine.
Merci à toi Thomas. C'était chouette cette discussion.
Ouais, c'était un vrai plaisir et je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée. À bientôt.
À bientôt.
Ce que j'aime beaucoup dans la direction qu'a prise Perrine et qu'elle nous partage dans cet épisode, c'est à quel point elle incarne clairement sa vision de la croissance raisonnée. Et on le voit, on l'entend, elle cherche pas à exploser du jour au lendemain, mais elle cherche à construire, pas à pas, brique par brique, un projet de grande envergure qui prendra sûrement des dizaines d'années à arriver à maturité. Elle voit vraiment les choses en grand et sait que les plus grands effets se jouent sur le long terme. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'apporter une réflexion et une question complémentaire à celle que pose Perrine à la fin de cet épisode, qui est la suivante. À quoi ça ressemble pour toi la vision sur 20 ans de ce que tu pourrais construire en prenant vraiment le temps de construire une activité qui part de tes valeurs en premier? Et je suis très curieux de ta réponse. Qu'est-ce qui te vient quand tu te projettes sur aussi loin? 20 ans, c'est incroyablement long, 20 ans. On a le temps de faire tellement de choses. Et si tu réponds, j'espère que tu prendras le temps de répondre, n'hésite surtout pas à partager sur tes réseaux c'est quoi ta réponse, c'est quoi cette vision à 20 ans, et identifie-moi pour que je puisse voir ce que c'est pour toi. Et si tu veux creuser le sujet et continuer d'avoir une réflexion encore plus poussée sur ton activité, tes valeurs, ta vision pour le futur, je t'invite fortement, fortement à venir me rejoindre et tous mes lecteurs dans ma newsletter sur thomasburbidge.com/newsletter. Et d'ici à ce qu'on en parle par mail, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.